Hey. J'ride, ride dans la ville, j'évite les bouchons et les flics en civil. Dans ma bouche un spliff au rond-point, j'fais des drifts et j'ai frôlé la mort à l'entrée du périphia. Hey. Pieds sur la pétale, non ce soir je ne rentre pas, je vais rouler jusqu'à le retour dans mon poil.
Bonjour, vous écoutez le 9e numéro de What the F Podcast, nouvelle formule, et mais c'est toujours présenté par Fania Noël. Bienvenue.
À l'heure actuelle, on va le découvrir, ce spot qui montre des scènes de harcèlement de rue, des situations en tout cas de harcèlement sexuel, de harcèlement de rue, des enfants qui se battent, des comportements déplacés vis-à-vis des femmes, et de conclure aussi avec cette phrase « Certains se comportent bien, mais certains, ce n'est pas assez ». Et on voit aussi des hommes répéter « Les hommes, c'est comme ça ». La perfection au masculin, on s'en souvient, c'était dans les années 90, et bien désormais, la marque revoit son slogan « Le meilleur qu'un homme puisse avoir, laisse place au meilleur qu'un homme puisse être ». Comprenez, respect et compréhension donc à commencer par les femmes. La marque qui en fait utilise le mouvement MeToo pour dénoncer ce que la masculinité a de toxique. Il faut en finir avec cette idée commune, nous dit Gillette, que les hommes sont des hommes, et parce que les hommes sont des hommes, eh bien c'est une excuse qui sert souvent à pardonner les attitudes agressives et sexistes des hommes.
En tout cas, la marque maintient sa publicité malgré le tollé suscité.
Oui, certains se sont dit vexés et blessés. Ce spot qui a hérissé le poil, par exemple, de James Woods, l'acteur conservateur accusé de culpabiliser les hommes. Il accuse de culpabiliser les hommes avec une propagande.
On vient d'écouter 5H de Izzet featuring Joker, suivi d'un extrait d'une vidéo sur la polémique à la suite de la pub Gillette. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, Gillette avait fait une publicité et après s'est fait attaqué par des masculinistes qui disaient que... c'était l'année dernière, en janvier 2019, il disait que cette publicité était contre la virilité, etc. Et donc voilà, les titres étaient « Gillette attaque la masculinité toxique » avec cette vidéo pour ses produits. Cet extrait était pour introduire notre sujet du jour, en finir avec la masculinité toxique. Alors, comme le titre ne l'indique pas, mais maintenant vous êtes habitués, il ne va pas s'agir d'un podcast de conseils et recettes pour déconstruire les hommes, la masculinité, pour être des meilleures personnes, mais d'une discussion avec moi-même sur pourquoi on doit en finir avec ce concept, enfin avec l'utilisation de ce concept dans un cadre d'analyse et de lutte féministe. Voilà, mais on peut utiliser le mot comme on veut. Et dans la deuxième partie, j'inaugure la nouvelle version du podcast avec à chaque épisode une réponse à une question qu'on m'a posée sur Instagram, réseau, ou même une question à laquelle j'ai pas eu le temps de répondre dans un des événements. Allons droit au but. Pourquoi il faut finir avec la masculinité toxique? Il y a plein de raisons, mais pour synthétiser, moi je dirais qu'il y en a trois principalement. La dépolitisation, l'inefficacité et la marchandisation. On va commencer avec la dépolitisation. La masculinité toxique, cette idée, renvoie à l'individualisation. Donc, qui dit individualisation renvoie à les personnes, au travail qu'elles doivent faire sur elles-mêmes pour se déconstruire, pour être des bonnes personnes, pour être des meilleures personnes, etc. Donc, il y aurait des bonnes et des mauvaises masculinités. S'il y a des masculinités toxiques, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me rappelle un truc comme « not all cop ». Vous savez, quand on dit « les violences policières, il faut abolir la police », et on nous sort « ah non, mais en fait, il n'y a que des mauvaises pommes, c'est pas tous les policiers, etc. » Ben, en fait, si, en termes de système, si. Donc là, on nous sort un truc sur les bonnes et mauvaises masculinités. Donc, ça renvoie au travail individuel qui permettrait de se reformer, d'être une mauvaise personne. Et souvent, j'en parle dans ce podcast, à longueur de podcast, que ce genre d'utilisation est un cul-de-sac. C'est un cul-de-sac de la même façon quand on parle de privilèges, de déconstruction, etc. C'est un cul-de-sac parce que Ils représentent des solutions qui ne renvoient pas à l'analyse des antagonismes dans ce cas de genre, entre la classe des hommes et la classe des femmes, pour faire gros, et ni à des analyses qui prennent en compte le système, et ici, le principal système, le patriarcat, même s'il y a d'autres systèmes en jeu quand on parle de masculinité, parce que le genre ne se vit pas en dehors de tout, mais ça, on va dire, pour simplifier le raisonnement, on va parler que de ça. Donc, ce genre de choses, la masculinité toxique, part du postulat qu'il y aurait quelque chose de neutre, et comme c'est toxique, ça a été contaminé. Donc voilà, donc ça a provu la toxicité, c'est ça, c'est que il y en a qui sont neutres, il y en a qui ne sont pas toxiques et il y en a qui sont toxiques. Donc ça évacue et invisibilise complètement le fait qu'il ne s'agit pas de démonstration seulement de masculinité toxique, mais bien du système patriarcal qui produit des individus qui sont dans un rapport de domination, d'exploitation et d'extraction de force de travail dans un système qu'on est dans le capitaliste, sur une autre catégorie d'individus. Et cet antagonisme se traduit dans plein de domaines, que ce soit les relations personnelles, l'État, dans le travail, dans le rapport au corps, dans les médias, etc. Donc, dire qu'il y avait une masculinité toxique, c'est renvoyer, à des individus qui ont été contaminés, ou aux formes les plus visibles de ça, c'est-à-dire les formes les plus démonstratives. Et surtout, lorsqu'on parle de masculinité toxique, ça va souvent avec le terme masculinité fragile. Alors que moi, je pense que la masculinité fragile n'existe pas. Ça n'existe pas. Au contraire, la masculinité n'est pas fragile. La masculinité est toute puissante, elle est hégémonique, elle n'a rien de fragile. Le fait qu'elle montre l'écro à chaque moindre critique, à chaque moindre attaque, ça ne montre pas sa fragilité en fait. Ça ne montre pas la fragilité du patriarcat ou de la masculinité. Au contraire, ça montre sa détermination à être hégémonique, toute puissance, et à ne tolérer aucune remise en question, aucun partage de pouvoir, aucune asymétrie dans le rapport de domination. Donc là où on voit de la toxicité ou de la fragilité, ce n'est que l'expérience ou la démonstration des personnes appartenant au groupe majoritaire dans le sens dominant, dans le sens social, dans le sens politique, dans le sens économique, du patriarcat, et on parle des hommes. Donc, le patriarcat, la lutte contre le patriarcat s'analyse pas dans ce rapport strictement individuel, même s'il prend en compte le rapport individuel, parce que c'est les individus qui font les politiques publiques, les violences, etc. Mais comment la société est organisée pour permettre que la machine fonctionne aussi bien. C'est-à-dire que, par exemple, en France, on n'a pas besoin de beaucoup de lois sexistes pour que le patriarcat fonctionne bien. Parce que c'est tellement... c'est dilué. C'est très dilué. C'est-à-dire que l'État a plus besoin d'être aussi fort pour que le contrôle par les violences domestiques, le travail, la charge mentale, ou toutes ces choses-là s'effectuent quand même. Donc, se concentrer sur les démonstrations visibles et de positionnement, c'est-à-dire que là, masculinité toxique, quand un mec il dit un truc, etc., ça invisibilise le fait aussi tout ce qui relève des politiques publiques et comment l'architecture du système est faite pour que cette compétition pour les ressources soit en la faveur de certaines classes plus que d'autres. Et aussi, le dernier point dans ça, dans la dépolitisation, c'est qu'on voit apparaître des discours sur des bonnes et des mauvaises masculinités qui font de la réification, c'est-à-dire qui figent des choses, qu'il est réduit au strict minimum de certaines masculinités, dont les masculinités queer et trans. C'est-à-dire que j'ai vu un article qui disait que les hommes trans seraient un modèle de bonne masculinité contre la masculinité toxique. C'est-à-dire que les mecs trans ne peuvent pas vivre juste leur vie, vivre. Il faut qu'ils soient comme des outils de compréhension politique, qui soient des objets politiques fantasmés pour déconstruire d'autres. Et ça rappelle beaucoup les discours par exemple dans la campagne américaine où on dit souvent oui, les femmes noires doivent sauver les gens, alors que non, il n'y a pas d'individu dont la vie et l'existence doit servir juste de marchepied ou d'amélioration d'autres individus. Pour des objectifs, enfin pour des résultats qui me semblent extrêmement douteux. Donc voilà, donc, il y avait un bon, je ne sais pas si c'est un article ou un thread de Joao. Tapez Joao Guadeloupe sur Twitter et avec des mots-clés, peut-être vous allez trouver qui parlait de ça justement. On a vu la dépolitisation, le point 1. Le deuxième point, l'inefficacité. Parce que vraiment, il faut qu'on m'explique quelle technique employer si c'est la masculinité toxique, s'il faut combattre la masculinité toxique, voilà, parce que voilà. C'est quoi la technique? C'est quoi, en termes de mobilisation, de ressources féministes, de militantisme, de production de savoir, etc. C'est comment? On va aller chercher un par un, on les prend par groupe, il faut, et après, à la finalité, il en faut combien d'hommes à la masculinité non toxique pour faire advenir ce monde féministe? Quel mouvement féministe ça demande? Est-ce qu'il faut un spécialisé? Ou est-ce que c'est un peu tout le monde qui doit faire ça? Ou est-ce qu'on envoie juste des PDF et après on fait des contrôles de connaissances? Donc en fait, ça pose vraiment la question qu'on a des termes comme ça, dire voilà, masculinité toxique, il faut la penser en termes de, ok, on fait quoi pour ça? Et quand on voit que ce qu'il faut faire contre ça est un gouffre d'énergie et de désempowerment, ça veut dire que ça permet pas d'avoir du pouvoir, mais ça perd du pouvoir, parce que c'est beaucoup se concentrer sur l'autre groupe pour le détoxifier. On se rend compte que, voilà, que c'est un cul-de-sac aussi en termes d'organisation autour de cette question. Donc, une fois, même si on dit oui, mais ça permet aux gens de reconnaître la masculinité toxique, ok, t'as reconnu la masculinité toxique, ok, tu l'as reconnu. Voilà. On n'est pas plus avancé dans la matérialité de tes conditions, dans ta fiche de paye, dans tes capacités à circuler, à ne pas être agressé, à obtenir justice, à dans les rapports de couple, dans plein de rapports. On n'est pas plus avancé que ça. Voilà. Ça, c'était le deuxième point, l'inefficacité. Et le troisième point, la marchandisation. Là, on est au cœur du néolibéralisme, qui est intégrer tout ce qui est possible pour le transformer en part de marché. De la même façon, petite parenthèse, sur les vêtements, quand les marques comme H&M, qui fait des vêtements qui dit qu'ils sont neutres de genre. Donc, vous avez remarqué que ces vêtements, bizarrement, ils sont toujours plus des vêtements qui ressemblent à des vêtements dits d'hommes que d'autres, mais ils sont semblés être neutres, donc la neutralité, un concept tout à fait fascinant. Bizarrement, pour une marque comme H&M, par exemple, qui a des employés qui produisent ces vêtements au Bangladesh, qui meurent dans des immeubles, s'ils veulent vraiment se concentrer sur, je ne dis même pas la lutte contre le patriarcat, disons, le genre, la question de genre, dans le sens même le plus libéral du terme, peut-être se concentrer sur les conditions de vie des personnes qui produisent ces produits, les salaires des vendeuses, parce que c'est majoritairement des vendeuses, les écarts salariaux aussi, même chez les cadres, l'impact sur le climat, parce que le climat, ça a un impact sur les femmes, donc on voit bien que c'est une grosse douille. Et de la même façon, d'autres marques, donc là, comme prenons le cas de Gillette, doivent se réinventer. Pour cela, le marketing du progressisme washing, comme il y a le greenwashing, c'est-à-dire masquer sur des choses progressives pour vendre des biens, ouvre de nouvelles parts de marché. Alors, si Gillette veut vraiment parler aussi du rapport de genre, je dis toujours pas patriarcat parce que ça peut paraître un peu trop radical pour ce genre de marque et que c'est pas leur but, on va dire pour rapport de genre, l'égalité, moins d'iniquité, quoi que ce soit d'édulcoré même. Il peut regarder les écarts de salaire aussi, comme H&M, les conditions de travail, son impact, le fait que pendant longtemps ils vendent des même au point de vue même pas RSE, responsabilité sociétale des entreprises, au point de vue strictement commercial, Gillette fait partie des marques qui vend les produits pour femmes plus cher que les produits pour hommes. Donc peut-être ils peuvent commencer par là, ça aidera. Ça peut au moins aider à économiser sur certains accessoires si il se soucie des femmes, des hommes, de la masculinité toxique, etc. En résumé, l'utilité dans une conversation de ces termes, masculinité toxique, c'est très bien. On peut dire, moi je n'en parle pas parfois pour dire ah non, être une masculinité toxique, mais dans le terme d'une conversation. C'est-à-dire, c'est le terme d'une conversation, c'est pas un propos sur une analyse. Donc, l'utilité dans une conversation, c'est pas la même chose que la mobilisation conceptuelle et l'utilisation comme outil d'analyse et de lutte dans un cadre féministe et de militantisme. Donc il faut vraiment différencier des choses, et ça c'est le problème avec les termes comme masculinité toxique, privilège, fragilité masculine, enfin masculinité fragile, etc. C'est que effectivement on peut l'utiliser dans une conversation comme ça, il n'y a pas de problème, mais c'est quand ces termes ont tendance à s'imposer comme remplacement, voire synonyme, ou encore pire, effacement de termes, de concepts beaucoup plus efficaces et beaucoup plus mobilisateurs pour comprendre les rapports de domination, les rapports systémiques, les dominations patriarcales, anticapitalistes, et ce qui se joue dans ces rapports, dans ces antagonismes, et comment la mobilisation, et sur quoi, et sur quel cadre elle doit s'appuyer, non pas sur les déclarations de positionnement des gens, mais vraiment partir des conditions de vie des personnes les plus à la marge, dans ce cas des femmes, pour comprendre l'exploitation basée sur la division du travail genré, c'est-à-dire dans le travail domestique, dans l'exploitation des corps, la reproduction sociale qui est le fait comment la reproduction sociale est gérée par le patriarcat, mais aussi le capitalisme, pour maintenir cette société, pour maintenir les dominations. Il existe des concepts qui permettent de mieux comprendre ça et de construire des luttes, des types de mobilisation, des stratégies beaucoup plus efficaces et qui restent beaucoup moins dans l'écume des choses et en surface. Donc voilà, j'espère que je vous ai convaincu. Alors pour cette deuxième partie, la question, c'est une personne qui a participé à l'événement Amour Noir de The Why, il semblerait, mais qui était capable, suivi le début de la question, qui était allée aux toilettes, c'est précisé dans la question, et la personne demande, est-ce que tu peux expliciter ce que tu veux dire quand tu dis qu'il y a des dynamiques différentes dans la représentation, dans l'imaginaire, représentation slash imaginaire slash narrative, des couples mixtes quand il s'agit homme noir, femme non noire d'un côté, et quand il s'agit de femme noire, homme non noir. Donc, ce que j'expliquais à cet événement qui était samedi 29 février, à cette question, c'est que, en fait, c'est en termes d'imaginaire et de narrative, on parle bien d'imaginaire, c'est-à-dire d'imaginaire narratif, c'est-à-dire qu'on vit dans une société qui est négrophobe, c'est-à-dire on est baigné dans la société négrophobe, c'est-à-dire qu'il y a des imaginaires et des narratives, même inconscients, qui sont là et auxquels on est renvoyé de manière subtile, de manière subliminale, tous les jours. On est renvoyé, on s'en rend pas, même pas compte, mais on y est renvoyé. Ça, c'est un construit du racisme, de l'esclavagisme, du colonialisme, etc. Donc, dans cet imaginaire, les hommes noirs n'ont que leur corps. les hommes noirs, c'est des rappeurs, des chanteurs, des footballeurs, pardon, des sportifs. Le terme même grand, beau, black, etc. Les hommes noirs n'ont que leur corps. Les hommes noirs sont des corps. Ils sont des corps, des grands corps, avec l'hypersexualisation qui va avec, une sorte de performance sexuelle. Donc, ils n'ont que leur corps. Ils sont des corps, ils sont des forces de travail, ça rappelle aussi l'exploitation esclavagiste, ils sont des forces de travail, ils n'ont que leur corps. Ils sont pas considérés, en plus en France, surtout en France, où il y a pas beaucoup d'hommes noirs publics qui produit, qui est visible dans le domaine de production intellectuelle. Donc je parle vraiment de production intellectuelle. Donc ils sont pas considérés comme ayant des capacités intellectuelles, d'analyse, etc. Les hommes noirs, ils sont considérés comme n'ayant que leur corps. De l'autre côté, on a les femmes noires qui ne sont moins considérées n'ayant que leur corps parce que elles, leur corps n'est pas attirant parce qu'elles sont pas vraiment des femmes. Les femmes noires, la féminité appartient aux femmes blanches. Ou aux autres femmes, aux femmes qui ont des longs cheveux, les femmes qui machin, etc. Comme dit l'adage, tous les noirs sont des hommes, toutes les femmes sont blanches et certaines d'entre nous sont courageuses. Donc voilà, quand on parle de féminité, l'image qu'on a en tête, c'est plus Charlize Theron ou Taylor Swift que une femme noire. Même les femmes noires claires, type Beyoncé, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours ces genres d'invectives liées à l'animalisation. Donc voilà. Donc elles n'ont pas leur corps parce qu'elles sont pas censées être elles sont là pour s'occuper des autres, pour être exploitées, etc. Mais comme elles sont là pour s'occuper des autres, dont la famille blanche, elles doivent avoir quand même un minimum de cerveau, elles doivent comprendre des choses. Donc, on est plus enclin à leur prêter, tout en leur prêtant quelque chose d'être non attirant, invisible, dans leur invisibilité, à leur prêter une capacité de réflexion qui est liée à la nécessité d'elles d'être dans l'intimité, qu'elles font moins peur, on va dire. Donc vous avez d'un côté les hommes noirs qui ont que leur corps, de l'autre côté les femmes noires qui sont pas des femmes, qui sont pas attirantes, mais bon, elles sont... Donc voilà, elles peuvent aligner deux mots. Donc dans cet imaginaire qu'on a là, très très réduit, très 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 réduit, je l'admets, donc je vais simplifier. Les hommes noirs qui ont que leur corps, les femmes vont avec elles pour ce corps, donc elles sont avec des beaux blacks, etc. Donc c'est bien. Et de l'autre côté, nous avons une catégorie. On va enlever les catégories genre les coupes par nécessité économique, migration, etc. Nous avons aussi la narrative et dans l'imaginaire de ce qu'on nous montre, du moins dans les médias, dans l'imaginaire public, c'est des hommes noirs plutôt jolis, beaux, athlétiques, genre footballeurs, avec leurs femmes non noires, et des femmes noires, ça c'est surtout dans le cinéma français, qui sont professions intellectuelles supérieures, artistes, dans les professions intellectuelles, c'est-à-dire cadres, c'est-à-dire des femmes noires cadres, intellectuelles, machin, etc., qui, elles, sont avec des hommes blancs. Donc, qu'est-ce que ça dit de ça ? Ça dit que ces femmes noires-là sont comme des pépites, comme en safari, des choses assez rares. Donc elles sont noires, et puis en plus elles savent parler, vraiment singes savants. Mais ce genre de pépites, c'est pas assez bien. Elles peuvent s'épanouir, c'est comme une fleur très fragile, etc. Elle ne peut s'épanouir qu'en compagnie deux personnes, d'hommes non noirs, et les hommes non noirs, eux, qui savent comment entretenir cette passion intellectuelle, artistique, je ne sais pas quoi, là, qui savent être le genre de compagnon qu'il faut à ces personnes spéciales. Parce que les hommes noirs sont considérés comme intrinsèquement sauvages, dénués de sens, etc. Et c'est pour ça, de fait, qu'on les visualise toujours avec noirs, avec leur corps riche, etc. Mais avec des femmes qui ne sont souvent pas dans la même catégorie qu'ils ont accédé, mais que tellement ils ont peu de choses que déjà être avec quelqu'un qui n'est pas noir, c'est une ascension. Donc voilà. Donc il y a, c'est vraiment les deux images qu'on nous présente, des hommes noirs qui ne sont que des corps et qui sont là, qui sont juste beaux là, et après de le, qui sont avec des femmes pas noires, et après des femmes noires qui sont mises en avant pour leur travail artistique, intellectuel, etc., qui sont avec des hommes blancs parce que les hommes blancs sont compréhensifs, ils sont moins patriarcaux, ils sont gentils, ils sont pas des sauvageons, etc. Donc c'est ça qui se joue en termes de dynamique sur la représentation. Donc c'est pas un discours sur ce que les gens ressentent, les noirs ressentent, etc. Et c'est pas sur ce que nous on dit de nous-mêmes, c'est sur ce qui est renvoyé en message subliminal à chaque fois que dans les médias, dans l'art, dans le cinéma, il y a cette narrative qui est mise en place. Voilà. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve le mois prochain. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Fania-Noël, sur Twitter Fania Makaya tout collé, et mon livre est toujours en librairie sur Amazon, sur le site de l'éditeur Sileps, et sur ma page Instagram vous retrouverez toutes les dates des prochains événements. Ce podcast est enregistré le 3 mars et le prochain événement est le demain 5... Non, ce podcast est enregistré le 4 mars et le prochain événement est demain le 5 mars au colloque des féminismes noirs en contexte post-impérialiste français, et ensuite le 10 mars avec Maboula Soumoro à la colonie Barré dans le 10e. Avant de se quitter avec Anything You Want de Robert Cray, je vais lire un extrait de Faye de l'autrice haïtienne Yannick Lahens. À très bientôt. L'homo politicus, quand il n'est pas au pouvoir, doit affronter un certain nombre de difficultés majeures. La première est la défiance endémique de la population, dont certains, semble-t-il, n'ont pas encore mesuré le poids énorme. Défiance qui suscite un penchant évident pour les mouvements électoraux spontanés et éphémères plutôt que pour que l'implication dans les partis politiques dont la vocation est précisément de s'organiser et de s'inscrire dans la durée. La deuxième difficulté tient dans l'obstacle qu'immanquablement, tout pouvoir en place dresse sur le chemin de l'opposition. Dresser des obstacles constitue une des activités de prédilection des pouvoirs en place. La troisième difficulté, et non la moindre, tient dans la précarité. Comment arriver jusqu'au gâteau national quand on a peu ou pas de moyens, que les campagnes électorales deviennent de plus en plus coûteuses? Comment le faire quand on compte précisément sur l'accès à une fonction pour se faire rapidement une santé financière et s'acquitter ensuite des obligations communautaires liées à la culture de la solidarité de la société traditionnelle? Car il s'agit de manger. Il s'agit aussi de ne pas manger seul, selon le dicton populaire. Alors toutes les occasions sont bonnes, y compris bien sûr la corruption. La conséquence première est que le pouvoir, l'homo politicus, préfère le plus souvent la sauter, réclamer des gouvernements de salut public sans passage par les urnes plutôt que de s'adonner au long travail d'organisation de la prise de pouvoir en commençant par vaincre la défiance séculaire. Et Haïti, étant un pays où la terre glisse sous les pieds, entendez par là un pays imprévisible. Certains homo politicus s'arrangent pour être détenteurs soit d'un autre passeport, soit d'une résidence dans un pays où la terre ne glisse pas sous les pieds, États-Unis ou Canada. Souvent, ils y installent femmes et enfants. À ce prototype est venu s'ajouter celui du candidat ayant trempé dans des affaires illicites et qui doit trouver une immunité qui le mette à l'abri, même provisoirement, des poursuites d'Interpol ou de la DEA, organisme chargé de lutter contre le trafic de stupéfiants. Mais dans un pays de créoles et de bossales, on ne saurait minimiser le besoin éperdu de reconnaissance et le poids anachronique de la question de la couleur. Le terrain politique est quasiment occupé par des créoles noirs ou aspirant à ce statut. La politique constitue à leurs yeux un des seuls espaces d'affirmation de soi. D'où cet investissement émotionnel énorme pour occuper les coulisses du pouvoir ou les cénacles enchantés. Investissement qui atteint son apogée en bouffée délirant durant les périodes électorales. Et si cet aspirant créole ou ce créole est né en dehors de Port-au-Prince, il s'agira de surcroît pour lui de venir à la capitale pour jouir d'une autorité ou mieux s'y faire valoir en déclenchant la sirène dans les embouteillages, en prenant les sens interdits dans un 4x4 flambant neuf, suivi par un véhicule débordant de garde du corps, toutes choses qui feront de lui l'étoile filante de sa ville ou de sa commune d'origine. Cette soif tenace d'affirmation et de visibilité, il la prolongera en fréquentant à Port-au-Prince les cercles étrangers, la frange des créoles mulâtres du pouvoir économique, avec l'espoir secret d'assouvir son fantasme et de se donner un relief social en courtisant une femme à la peau claire ou mieux, une mulâtresse. Certains sont prêts à damner pour cet exposant de statut. Il faut relire France Fanon, peau noire, masque blanc, mais surtout Micheline Labelle, idéologie de couleur et classe sociale en Haïti, pour saisir les jeux et enjeux coloristes de la Première République noire. Extrait de Faille, chapitre 24, l'homo politicus ou l'une des faces de Janus. Yannick Lacrasse.